Bonjour chers amis, encore pardon pour ce retard. Nous étions à 45 km d'ici et il y a beaucoup de ralentissements, beaucoup de limitations de vitesse, beaucoup de monde sur les routes. En France, nous avons été du côté de Amboise. Bonjour Annette, Amboise et en visite chez des chrétiens. Nous venons de rentrer. Vous savez que les chrétiens ont tous besoin de visite, ont tous besoin de pouvoir se confier, de se parler. Prenez l'habitude, chers amis, autant que vous le pouvez, tant que vous pouvez circuler, vous déplacer, de visiter les autres chrétiens. Tant que vous pouvez vous déplacer, tant que vous êtes mobile, vous avez une voiture, visitez les autres chrétiens. C'est une grande richesse pour tout le monde. Tous les chrétiens ont besoin de visite, besoin d'être écouté, entendu et de partager, et parfois d'être éclairé, dans le cas où ils le veulent, ils le désirent. Il se peut aussi qu'après une visite, on voie des choses et qu'on entende des choses et qu'on doive prier pendant des années ou des heures, jusqu'au moment où le Seigneur a aidé à régler les choses. Excusez-moi si la connexion parfois se coupe. Je suis dans une petite ferme au milieu des champs, à Meslan, à 30 km de Blois, 40 de Tours. Que Dieu vous bénisse. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Seigneur Père chéri, Père du ciel et de la terre, Papa, je te demande de bénir tous les amis, tous les frères et sœurs qui écoutent, de bénir tous ceux qui écouteront peut-être par la suite. Et quand ce message sera sur le site, je te demande de bénir aussi tous ceux-là. Bénis-nous, Seigneur. Fais-nous du bien et chasse de loin tous nos chagrins, nos inquiétudes, nos tristesses, nos peurs. Seigneur, pour tous ceux qui ont des santé fragile ou un psychisme fragile, nous te demandons vraiment, Seigneur, de mettre ta paix dans trou et que chasser tout trouble, toute attaque spirituelle. Mets ta main, Seigneur, la chaleur est parfois très dangereuse pour beaucoup d'entre nous. En prenant de l'âge, bénis tous les jeunes aussi, afin qu'ils s'intéressent à ta parole et qu'ils l'écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Et dans les églises, en visitant les églises, eh bien, je constate qu'il y a très peu de jeunes. Pourtant, le psaume 119, et vous qui avez déjà un certain âge, ou un âge certain, comme et moi aussi, ça avance, eh bien, dans le psaume 119, au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Un peu plus bas, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà donc un jeune qui est sans Dieu, qui a du respect et qui a de l'amour pour Dieu. Oui, il y a encore des jeunes qui ont de l'amour pour Dieu. Ne vous désespérez pas. Le gros problème, chers amis, en Belgique, peut-être relativement moins qu'en France, mais en France c'est certain, lorsque les familles chrétiennes mettent leurs enfants dans l'enseignement officiel, en France on dit national, ils sont en contact d'un tas d'autres personnes et ils vont être extrêmement sollicités. Leur foi va se diluer peu à peu. Et vous voyez bien le problème de ce jeune homme. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est la pureté, c'est l'impureté qui est le premier stade de l'évolution d'un enfant chrétien lorsqu'il tombe en milieu païen. L'impureté, le temps. On circule, là je vois, on voit des jeunes filles de 15-16 ans qui sont habillées, mais qui sont des bombes, et qui ont déjà l'air d'être... Et je me rappelle, Quand j'ai ouvert l'évangile, ma mère n'était pas contente. J'avais 3 sœurs, elles avaient beaucoup de copines. Et ma mère voulait me détourner de l'évangile, détourner de mon intérêt sérieux, profond pour Dieu. Et elle avait dit aux copines, amenez à mes sœurs, mes 3 sœurs, amenez vos copines. Elles venaient, bien sûr, en jupe raccourcie, etc., etc. Il est clair que quand on est adolescent et qu'on a des hormones, c'est très dur. Et moi, j'ai toujours observé ces jeunes filles et je pensais que c'était des oiseaux sans tête, que j'allais à la catastrophe avec ces filles. Et que le Seigneur, dans l'Évangile, me demandait d'être maître de moi-même. C'était un grand combat, chers amis, parce que c'était insidieux, c'était régulier. Ma mère était contente quand mes sœurs amenaient des copines. Et je faisais une cabane dans la forêt pour faire un mouvement de jeunesse pour 2 villages où ils se rencontraient. Eh bien, il y en avait une qui venait jusque dans la forêt en mini-jupe et qui, pendant que je sciais, je montais le chalet, se mettait dans des postures pour que j'aie envie d'elle. Et on était seuls. Et si je n'avais été sans la Bible, c'est clair, on serait passé aux actes. Elle n'attendait que ça. Sa vie, cette jeune fille, elle est devenue une femme. Elle a 1 ou 2 de moins que moi. Et sa vie était une catastrophe ambulante. Et pour beaucoup de toutes celles que j'ai vues, elles sont déjà mortes. Et ça a été un échec. J'avais toujours cette notion exactement que je ne devais pas pécher. Pourquoi? Parce que c'était la catastrophe. J'allais tomber et ruiner ma vie. Et je le disais à mes 3 sœurs, qui étaient assez bien, assez influençables, surtout celles qui me suivaient. Et au verset 29, elle éloigne de moi la voie du mensonge, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. On peut se mentir à soi-même, c'est pas le mensonge des autres. On a une conscience, si on a lu l'évangile, mais personne ne m'a enseigné. C'est moi qui ai lu l'évangile. Heureusement qu'une tante m'a donné l'évangile et que j'avais soif de le lire. Au verset 30, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Si j'ai la loi du Seigneur, l'évangile sous les yeux, quand je regarde quelqu'un, une personne alléchante, qui est vraiment, arrête ces coupures, mon Dieu, arrête toutes ces coupures, mon Dieu, arrête au nom de Jésus, mon Dieu, je t'en supplie, arrête toutes ces coupures d'Internet. Amen. Si j'ai la vérité sous mes yeux, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Au moment où mes yeux vont m'entraîner à la chute, je vois la vérité, je vois le vrai du faux. Et verset 32, je cours dans la voie de tes commandements, tu élargis mon cœur. Il y a quelque chose de plus fort que la tentation, plus fort que le péché et la sottise, la folie. Et verset 34, donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi, que j'observe de tout mon cœur. Dieu m'a gardé, je l'en remercie, Dieu m'a gardé. Je l'ai regretté parfois après, en me disant j'aurais bien pu me payer une bonne tranche régulièrement. Mais quand je vois les dégâts considérables de l'impureté, de la bêtise, de la stupidité, alors dans notre vie, on a une motivation essentielle, c'est le plaisir. C'est le plaisir et le désir. Et vous avez tous connu cela. Et je ne peux pas porter de jugement sur qui que ce soit et sur ses comportements. Je parle en fonction de mon expérience, qui est selon la parole ici. Dans le psaume 119, au verset 16, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Eh bien, c'était mon délice. C'était quelque chose que je trouvais de bénéfique, profondément vrai et juste. Au verset 20, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Donc, il y avait quelque chose qui me disait, je ne peux pas être comme le monde, je ne peux pas faire comme les autres font. Il faut que je reste tout près du Seigneur. Et c'est le verset, à 16 ans, que j'avais lu, celui qui me donne sa vie la sauvera, celui qui veut la conserver pour lui-même, donc suivre tous ses instincts, et les tentations du tentateur, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Ce verset était radicalement un fer de lance qui a touché mon cœur. La parole touche. Oui, Oui, je suis un étranger sur la terre. Oui, si je ne fais pas comme les autres, je suis étranger à eux. Bien que je leur ressemble, bien que je sois au travail, à l'école avec eux, je sois dans le bus avec eux ou en train de jouer au football avec eux, je suis un étranger sur la terre. Il y a quelque chose qui me positionne comme étranger vis-à-vis d'eux et ils le ressentent. Et moi, je le ressens aussi. Certaines personnes ne supportent pas cet inconfort de l'étrangeté, de la séparation, de la distinction. Ils veulent se confondre comme un caméléon dans la masse. Et ça, c'est un très grand danger. C'est 30, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Donc, je choisis. Il y a une décision profonde. Le plaisir est lié aussi à une décision. On finit par décider de quel plaisir on a envie. Et juste, comme me disait ma belle-mère, toujours, et pour les enfants que nous avons eus, l'obéissance est prompte. La vraie obéissance, elle est prompte. Elle réagit tout de suite. Si elle renâcle, elle traîne, elle finira par devenir désobéissance. Alors, obéir, bien sûr, au verset 17, verset B, j'observe ta parole. C'est une grande grâce que de demander à Dieu ce don d'aimer la loi du Seigneur, la loi de la sainteté. C'est une grande grâce. Et je peux le demander à Dieu, parce que je suis trop faible. Je suis trop faible, les amis. Au psaume 139, Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je maintenant? Nous voyons qu'une saine expérience de Dieu nous donne la conviction que Dieu nous voit. Où fuirais-je maintenant, Saint-Esprit? Où fuirais-je maintenant de ta face? Psaume 139, verset 7. Il y a, quand on a été touché par la parole de Dieu, à un moment donné, il y a toujours cette perception, mais je suis en train de, il faut que je fasse attention, le Seigneur me connaît. Que vais-je décider, pour lui ou contre lui? Et dans le psaume 119, au verset 139, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Donc, il y a une opposition, il y a quelque chose, un conflit, qui va naître automatiquement. Ce n'est pas facile, chers amis, d'être fidèle et amoureux de Dieu. Il faut brûler celui de rester amoureux de Dieu. Il faut un désir plus fort que toutes les vagues qui veulent m'inonder, m'anéantir, m'écraser. Il faut une force venue d'en haut. Et cette force dans mon cœur, ta parole est entièrement éprouvée, ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, ta loi est la vérité. Il y a une conviction. Dans des situations vraiment, on les vit, qu'on soit jeune ou moins jeune, on les vit. Quand on a connu, on a perçu la vérité, on a toujours, toujours, soit la possibilité de rejeter et de mettre ça au détritus, soit de rester petit, méprisé, et d'être toujours attaché à cette parole. C'est une parole entièrement éprouvée. Psaume 119, verset 40. Elle est entièrement éprouvée dans tous mes passages, dans toutes mes décisions, dans tout. Elle est entièrement éprouvée. Elle est toujours là, confrontée à l'opposition, soit de mon cœur, soit des autres, soit de Satan. Et la parole éprouvée, c'est la parole qui me guide et qui se heurte à mon péché, qui se heurte à Satan. La parole que j'ai dans mon cœur, que j'ai acceptée à 16 ans, 16 ans et demi, s'est heurtée, heurtée aux propos des autres, aux pressions des autres, aux professeurs laïcs, aux professeurs athées, et je dirais même, j'ai eu un professeur qui était franc-maçon, et très malin, il était vénérable, grand vénérable chez les francs-maçons. Il était très astucieux pour nous influencer. Comment se fait-il que j'ai résisté? Comment se fait-il que des chrétiens à travers le monde résistent? Mais parce que simplement, psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation, c'est une action de Dieu pour révéler en moi la vérité de la parole. La vérité est la vérité, mais fondamentalement le plus précieux. Et elle fait quoi? Elle donne de l'intelligence aux simples, donc à ceux qui ne s'enorgueillissent pas, elle donne de l'intelligence pour ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser entraîner. C'est un grand combat spirituel, les amis, pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour les adultes d'aujourd'hui, pour les enfants d'aujourd'hui. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Prenez garde de mettre les enfants dans l'enseignement laïque, l'enseignement destructeur, l'enseignement la mineure, écrasant, dominant. Prenez garde. Et il y a des pays maintenant qui interdisent. Interdire que les parents donnent l'éducation à leurs enfants. Quand vous entendez le mot éducation nationale, c'est la nation qui éduque. Moi, en principe, si je lis le livre des Proverbes, donc il n'y a pas d'éducation nationale dans la Bible. Il y a une éducation familiale, biblique, spirituelle. Après, l'enfant peut choisir. Mais s'il est dans l'éducation nationale, il va se faire laminer, détruire, séduire. L'éducation décadente va s'écrouler bientôt. Et il est clair que toutes les lois anti-Dieu n'ont pas eu raison de Dieu. Ce qui compte pour vous, pour moi, c'est au verset 40, psaume 119, verset 40. Désir pratiquer des ordonnances, verset 40. Fais-moi vivre dans ta justice, c'est-à-dire dans ta sainteté. Il faut recourir à l'abondance du ciel. Il faut recourir à ce qui vient d'en haut. Jésus l'a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il faut recourir. Vous voyez, au verset 54, tes sujets sont un sujet de mes cantiques, donc de la prière, de l'adoration, de la louange. Moi, j'adorais aller à vélo à l'école laïque. Je ne voulais pas être dans le bus parce que j'étais sous la pression des bruits, de la cacophonie et de la folie. J'allais à vélo partout. Non. Alors, au verset 54, dans la maison où je suis étranger, verset 54, il peut arriver quand dans une famille, quelqu'un naisse à la parole de Dieu, naisse à la foi, arriver dans une maison, quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, et il n'est pas du tout à l'entour de lui quelqu'un qui participe, qui est complice, qui a une connivence spirituelle. Dans la maison où je suis étranger, tes statuts sont le sujet de mes cantiques, de ma prière. C'est le verset 5. Comme David, seul, parmi sa famille, a aimé Dieu et a le trouvé en gardant les brebis tout seul. La solitude permet de forger parfois beaucoup mieux le tempérament, le caractère dans la foi. Et que quand on est tous entourés de chrétiens, et puis c'est trop facile. Dans la maison, dans le travail, dans les copains, les copines, et on est peut-être et certainement étranger si on a la foi. C'est quelque chose qui est inhérent à la foi. La foi n'est pas automatique et nous avons reçu la liberté. Donc, la nuit, je me rappelle ton nom éternel. C'est dans la nuit. Dans l'isolement, que souvent on trouve la paix pour être avec Dieu, quand on n'a pas cette connexion spirituelle, morale avec les autres. Et c'est là ce qui m'est propre, j'observe tes ordonnances. C'est là ma grâce d'être tout seul avec toi. C'est là que je perçois ta grâce agissante, c'est là que j'ai mon trésor. C'est là que je suis en train de vivre. Et je garde ta parole, je garde tout ce que tu me communiques, et je veux garder tout le chemin Mets mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je retiens. Il y a quelque chose qui me pousse à retenir mon pied, à ne pas m'engager comme les autres dans la folie et le péché. Et au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ne mette pas mon pied dans un trou. Je ne me fasse pas une entorse spirituelle et morale dans ma vie. Ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est cela qui me guide. Il y a une perception spirituelle de la vérité qui est donnée aux croyants. Et c'est ça l'œuvre spirituelle du Saint-Esprit. Jean 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il y a quelque chose qui s'est allumé en lisant la parole. Il y a une œuvre de grâce qui s'est fait dans moi. Il y a de l'amour pour Dieu qui a été répandu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je garde ses commandements, ce qu'il me demande. Et au chapitre 15, verset 15, eh bien, vous n'êtes plus mes serviteurs. Je n'appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. L'amitié avec Dieu est plus forte que l'amitié avec le mensonge du péché, le mensonge des péchés des autres, de la société. Alors, dans 1 Timothée chapitre 4, il est clair qu'il est dit ceci, nous travaillons, donc il y a un combat, il y a un engagement. En effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance, notre conviction dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Donc, Paul nous donne ici, c'est nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance, la conviction dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous savons que Dieu est vivant, qui est le plus important pour nous. Et que tout le reste, c'est de la mort. C'est de la mort. Ça amène à la mort. Donc, nous avons quand même dans ce psaume une richesse, le psaume 119. La perception que la parole crée une vitalité en nous. Et c'est clairement ce que Jésus a dit. Ma parole est la vérité, elle vous sanctifiera. Elle opérera en vous la sainteté qui vient des cieux. Le psaume nous dit dans le psaume 119, verset 22, « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. » En déposant tout, « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. » Il y a un apaisement. On dépose, on se retire, les flèches passent. « Seigneur, attrape-les, porte-les à ma place. Je suis qu'un être humain. Mais tu es le Dieu vivant. Prends toutes les flèches, prends toutes les menaces, prends toutes les discussions inutiles, prends l'opprobre, prends le mépris. Sur toi, à la croix, tu as tout porté. Seigneur, je te le dépose. Et Jésus dit, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, car je suis doux et humble de cœur. L'intimité avec le Seigneur Jésus est une grande expérience. Chers frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont, et je la souhaite à tous les humains. Cette intimité vivante avec Dieu est sur quelque chose qu'il nous dit dans notre cœur. En lisant la parole, en chantant, en louant, par le Saint-Esprit aussi. Donc Jésus est venu pour nous apporter cette communion avec le Père. Jésus est venu nous apporter cette joie, ce plaisir. Il n'y a pas que de la souffrance dans la vie. J'ai le plaisir, je le désire de me confier, de me déposer en Dieu. Au verset 41, « Que ta miséricorde vienne sur moi. » Donc la compassion de Dieu vient sur moi. Effectivement, frères et sœurs, c'est ce que je vous souhaite. Que la... Au verset 32, tu élargis mon cœur, tu élargis mon cœur. Au verset 45, je marcherai au large, je marcherai le chemin en nous, c'est celui du Seigneur, celui de l'apaisement, de la... Puisque tu m'as donné l'espérance, ô Éternel, c'est ma consolation dans ma misère. C'est ta promesse qui me rend la vie. Vous voyez qu'à un moment donné, la conviction de l'espérance, c'est la conviction. Donc, le cœur sensible fait l'expérience, bien sûr, de la détresse, de la difficulté. Il est humilié, au verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et qu'est-ce qui se passe? Mais bon d'être humilié. Au verset 75, 75, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Donc, une grâce m'est donnée. C'est à un moment donné de voir le fond du panier. Pourquoi? Parce que je vais goûter d'autant plus l'amour de Dieu, sa présence, sa consolation. Je suis au verset 83 comme une outre dans la fumée. Donc, je pleure, je souffre, mes yeux piquent. Mais c'est pourquoi je crie au verset 94, je suis à toi, sauve-moi. Et donc, il y a une expérience de la consolation qui m'est donnée après l'expérience de la fragilité et de l'humiliation. C'est un don de Dieu. Chers amis, je vais vous quitter. C'est impossible. La connexion est mauvaise. À vendredi, je serai à Gombrich. Je rentre à 17h. Donc, connexion avec mon appareil. Soyez assurés de l'amour de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Nous le sommes. Gardons notre engagement. Nous sommes gagnants dans l'épreuve. Nous sommes gagnants dans la foi. Alors qu'elle n'est pas. Monsieur de Gaulle, lorsqu'il a été destitué du titre de la nationalité française par Vichy, par Pétain, était-il gagnant? Et pourtant, 5 ans après, il était gagnant. Monsieur Gandhi a été gagnant alors qu'il était en pagne. Il faisait le chemin sur la croix alors que tout le monde se moquait et qu'il mourait dans l'endroit le plus infâme au monde. Il est ressuscité et tout puissant. Il est au ciel et reviendra. Alors aujourd'hui, si le lion rugit contre vous, d'une manière, si le lion rugit, sachez que Samson l'a tué et que les abeilles ont fait et ses parents ont mangé le miel.